Le journal, Anthony Montandon.
Bonjour, Bienne soutient les artistes de la région mais garde un œil sur leur progression. La ville a remis pour la troisième fois ses prix d'aide au développement de carrière artistique hier. Et le parcours des lauréats sont toujours scrutés une fois l'aide obtenue, vous l'entendrez. Il faudra trouver des compromis pour allier la production renouvelable de l'électricité à la défense de l'environnement. Le Conseil des États est d'accord sur ce principe, mais les moyens font encore débat. Le ciel de la région devrait progressivement se couvrir au fil de la journée. La pluie pourrait même faire son retour durant la nuit. Le mercure grimpera au mieux jusqu'à 17 degrés. La ville de Bienne continue son soutien direct aux artistes locaux et ne les lâche pas. Hier, les autorités ont présenté les 4 nouveaux dossiers qu'ils ont soutenus au travers d'une aide de 40 000 francs sur 2 ans. C'est la troisième fois et peut-être la dernière que ce type d'enveloppe est remise à des artistes biennois puisque le projet pilote arrive à sa fin. Jusqu'ici, 6 lauréats avaient déjà été sélectionnés et la ville garde un œil sur leur évolution une fois le prix remis. Michel Wüst, délégué à la culture, se montre d'ailleurs plutôt optimiste en voyant leur progression.
Ils répondent surtout à leurs propres attentes, puisque ce qu'on essaie de faire avec ce type de soutien, c'est de permettre ou d'encourager les artistes à atteindre leurs propres objectifs. Donc dans la plupart des cas, oui, les artistes soutenus parviennent à évoluer dans leur carrière, à développer leurs idées, leurs talents, leur travail, comme prévu, souvent même mieux que prévu. Ce qui est très encourageant pour ce type de soutien, ils peuvent vraiment se consacrer de façon assez libre à leur travail et à accomplir des objectifs ambitieux.
Il n'est toutefois pas encore certain que ce type de soutien soit prolongé au-delà de sa phase pilote. Retrouvez davantage d'informations sur deux des lauréats de cette année dans la matinale, c'est vers 8h20. Et au chapitre des récompenses dans le monde de la culture, notez encore que Philippe Crutli a décroché le prix bernois de la musique. Le directeur de l'école de musique du Jura bernois a été primé aux côtés de 4 autres artistes. Il a été sélectionné pour son engagement dans le monde musical. Ce prix est assorti d'un montant de 15 000 francs. Le calme revient entre Moutier et les communes de sa couronne. Les autorités prévôtoises et une délégation du Conseil intercommunal du Grand Val se sont même récemment retrouvées pour renouer le dialogue. Aucune grande décision n'a été prise au terme de cette rencontre, mais les deux entités ont fait part de leur volonté de trouver des solutions en vue de dessiner les futures relations qui les lieront après le départ de Moutier dans le Jura. Plus de détails dans une quinzaine de minutes dans la matinale. Et à Moutier même, la création des jeunes progressistes de gauche n'est pas du goût de tout le monde. La jeunesse socialiste jurassienne regrette que les membres de cette liste créée pour les prochaines élections municipales ne se soient pas alliés au PSA. Elle craint notamment que cette formation ne vienne fractionner les forces de la gauche. La JSJ prend également acte du départ de l'un de ses anciens membres de comité parti rejoindre cette nouvelle liste. La HEPB Jeune mise sur le numérique. Dès lundi 3 octobre, un test lab va ouvrir ses portes sur le campus de Delémont. Dédié à la fabrication d'objets, il est composé de plusieurs imprimantes, laser ou encore 3D, d'une brodeuse numérique ou encore de petits robots à programmer soi-même. Ces machines seront à la disposition des enseignants de la HEP, des enseignants externes et de leur classe, mais aussi à la disposition des étudiants. Le test lab doit permettre de développer des compétences numériques et d'inciter à la création de nouveaux supports de cours, quelles que soient les matières enseignées. On écoute la vice-rectrice de la recherche et des ressources documentaires à la HEPB Jeune, Denise Guiguer-Gaspeau.
On a une stratégie de déploiement de l'éducation numérique qui est aussi, j'ai envie de dire, dans l'air du temps. On est en lien avec aussi le plan d'éducation numérique qui a été mis en place par la CIP. Il y a toute une stratégie aussi au niveau de Swiss Universities. Donc c'est vraiment aussi de pouvoir être acteur de ce changement numérique.
Et le fait de proposer des outils avec des résultats concrets, on voit là-bas une carte de la Suisse qui a été découpée. Tout à l'heure, on nous a montré aussi un compas qui a été imprimé en 3D. Ça apporte quoi aux jeunes?
Je pense que ça permet de développer d'autres compétences, de pouvoir voir finalement aussi sur la base par exemple d'une réflexion, donc typiquement ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec la carte, on a pu faire une programmation aussi avant, d'avoir en fait tout le processus de réflexion, de programmation et comment à partir de ça on arrive à quelque chose de concret.
Des propos recueillis par Caroline Toussaint. Deux autres test labs ouvriront leurs portes à Bienne et à La Chaux-de-Fonds d'ici à 2024, dédiés à la réalité virtuelle et à l'intelligence artificielle. Plus d'infos sur notre site internet. Faut-il faire primer le développement de la production d'électricité renouvelable en Suisse au détriment de la défense de l'environnement? Le Conseil des États en a longuement débattu hier. Il n'a pas franchement tranché la question. Il a par contre renoncé à la proposition de dérogation généralisée aux dispositions environnementales. Pas tant pour satisfaire la gauche, mais parce qu'un passage en force au mépris de l'environnement aurait été contraire à la Constitution. Pour que la loi sur l'approvisionnement en électricité ait une chance, il faut construire des compromis. C'est l'avis de la verte Lisa Mazzone.
C'est la démarche qu'on a faite, essayer de trouver un projet équilibré, mesuré, en faisant des pas qu'on n'avait pas prévus au début. On s'est vraiment dit, ben voilà, il y a une situation d'urgence, d'incertitude, des graves risques. Donc on fait des pas, notamment sur ces projets de la table ronde hydraulique, ces 15 projets qui pourraient être avancés plus rapidement. Sur aussi ce qu'on appelle les marches proglaciaires, c'est quand les glaciers se retirent. Ce qui reste là, c'est des nouveaux biotopes. Là, on pourrait envisager certaines installations. Donc on est dans une démarche de compromis et je suis certaine que le Parlement va saisir cette opportunité.
Le Conseil des États n'a pas épuisé les 110 pages de la loi sur l'approvisionnement électrique. Il s'y replongera la semaine prochaine. Puis le débat se fera au Conseil national lors d'une prochaine session. Le face-à-face attendu au Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas vraiment eu lieu hier entre l'Occident et la Russie. Les ministres des Affaires étrangères ont exigé que Moscou rende des comptes pour son invasion de l'Ukraine, des discours que le représentant russe a globalement snobé. Sergueï Lavrov a quitté la salle après s'être exprimé. Un haut responsable américain indique pour sa part que personne n'a épargné la Russie durant ces discussions. 7h07, on passe au sport avec Stan Wawrinka qui décroche une belle victoire à Metz. Le joueur de tennis vaudois s'est imposé hier au deuxième tour du tournoi WTA 250. Il s'est défait du numéro 4 mondial, le russe Daniil Medvedev, en 3-7, 6-4, 6-7, 6-3. Stan Wawrinka se hisse en quart de finale. Il affrontera au prochain tour le suédois Michael Immer. Et la France décroche sa première victoire en Ligue des Nations de football. Les Bleus ont battu hier l'Autriche 2-0 dans le groupe 1 de la Ligue A au Stade de France. Ils remontent à la troisième place de leur classement derrière le Danemark qui s'est incliné hier chez le leader la Croatie 2-1. Et dans le groupe 4, les Pays-Bas se sont imposés 2-0 en Pologne. La Belgique a triomphé à domicile du Pays de Galles 2-1. Prochain flash d'information, c'est à 7h30. Belle matinée.